On va commencer tranquillement. J'inviterai les gens à venir s'asseoir, s'il vous plaît. Fermez la porte. Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième journée du colloque sur l'éthique et l'intégrité scientifique. Il me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour vous présenter nos conférenciers de cet avant-midi. Mais avant, laissez-moi me présenter. Mon nom est Sonia Gagnon. Je suis infirmière de formation. J'ai travaillé à l'Institut de cardiologie et aussi en recherche clinique pendant 10 ans comme infirmière. J'ai siégé sur 2 comités d'éthique en Ontario et au Québec. Et maintenant, je travaille pour une compagnie pharmaceutique comme chef de projet chez Bristol Myers Squibb. Et puis, je suis présidente de l'Association des infirmières et intervenants en recherche clinique. Je ne sais pas si ça me fait de moi un conflit d'intérêt. J'ai tellement fait de choses que... ensuite de ça, je vais un petit peu préciser l'horaire de la matinée. Dans la première portion, nous aurons 2 conférenciers. Ensuite, ce sera suivi d'une période de questions de 15 minutes. N'oubliez pas que chaque conférencier doit déclarer ses conflits d'intérêts. Ensuite, n'oubliez pas de remplir le formulaire d'évaluation à remettre à la fin de la conférence aujourd'hui, cet après-midi. Comme vous pouvez le constater sur la diapositive, le thème de ce matin est la protection de la vie privée des participants. Ça me touche beaucoup, puisque ça m'apparaît crucial qu'avec toutes les nouvelles technologies qui s'en viennent, Twitter, qui sont déjà là dans le fond, Twitter, Facebook, etc., qu'on va devoir protéger la vie privée des patients encore plus, des participants. Pour ce faire, j'ai le plaisir de vous présenter notre première conférencière, Mme Louise Ringuette, qui nous parlera des demandes d'autorisation à la Commission d'accès à l'information, comment améliorer la qualité des demandes. Un bref aperçu de Mme Ringuette, elle est titulaire d'une maîtrise en microbiologie de l'Université de Montréal et poursuit actuellement ses études au sein du département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal dans le cadre du microprogramme en bioéthique de l'École de santé publique. Depuis 2009, elle travaille à la Commission d'accès à l'information du Québec. Sa fonction principale consiste à analyser les demandes d'autorisation présentées par des chercheurs qui désirent que leur soient transmis des renseignements personnels et particuliers aux participants, et ce, à des fins de recherche, d'études ou de statistiques. Prenez la place, Mme Ringuette.
Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais remercier le réseau en santé respiratoire et ses organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de vous parler ce matin de la Commission d'accès à l'information. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'est un peu comme une grosse bébite qu'on ne sait pas trop là ce que ça fait puis que, comment c'est traité les dossiers. Alors, c'est un petit peu ça qu'on va faire ensemble ce matin, puis vous allez un petit peu plus comprendre les enjeux. Souvent, en tout cas, ce qu'on nous reproche, c'est nos délais. Mais vous allez voir que les délais, on peut les améliorer, mais tous ensemble. D'abord, je vais... la déclaration de non-conflit d'intérêt. J'ai aucun conflit d'intérêt, en tout cas, à ma connaissance, sauf le fait d'avoir d'être un employé du gouvernement du Québec. Puis je voudrais aussi ajouter le fait que chacune de mes diapositives a été revisée par ma direction. Par contre, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'exemples supplémentaires qui vont être ajoutés, dont certains sont teintés de mon opinion personnelle. Je pense que je vais essayer à chaque fois de vous dire que c'est plus mon opinion que l'opinion de la Commission, mais ça se peut que j'en oublie. Alors, il faut comprendre qu'il y a une symbiose entre mon opinion et celle de la Commission. D'abord, les objectifs de notre journée, ça va être vraiment... De voir c'est quoi la commission, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas la commission, puis c'est quoi la direction de la surveillance qui en fait ma direction à moi, qu'est-ce qu'une demande d'autorisation et qu'est-ce qu'une demande d'autorisation efficace. Puis aussi, c'est quoi le rôle de l'analyste? Vous avez pu voir là, sur la première diapositive que j'ai un analyste à la commission. Un analyste, c'est un peu comme un agent de recherche ou un agent de planification socio-sanitaire. C'est difficile de décrire c'est quoi, mais en fait, c'est vraiment d'analyser chacune des demandes qui sont présentées à la commission. Mais il y a d'autres rôles qu'on va voir ensemble dans une autre diapositive. Aussi, qu'est-ce qu'une décision? Parce que suite au travail de l'analyste, les commissaires ont à prendre une décision. Donc, comment les commissaires prennent cette décision-là? Puis aussi, mais comment on peut s'améliorer? S'améliorer nous, mais nous tous ensemble aussi. Puis une petite conclusion là qui va aller avec ça. Je vais prendre une gorgée d'eau parce que, comme vous savez, le stress fait qu'on a vite plus de salive. Bon, d'abord, la commission d'accès, c'est quand même assez jeune comme institution, hein, puis je voulais quand même mettre ça dans la perspective, c'est que c'est seulement depuis le 22 juin 1982 que, dans le fond, notre gouvernement s'est adopté une loi, qui est la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Et suite à cette nouvelle loi, dans le fond, les activités de la commission ont commencé pour voir justement assurer ce que la loi demandait de faire. Puis j'ai rajouté quand même le fait qu'on a eu une nouvelle loi aussi qui est arrivée en 1994. Cette nouvelle loi-là a à peine 20 ans. On va fêter ses 20 ans bientôt. Puis, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels sur le secteur privé. On n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui parce que la plupart d'entre vous travaillez dans des organismes publics et c'est souvent dans un contexte, dans ce contexte-là que les demandes sont présentées à la commission, mais je vais quand même en glisser un mot puis vous allez comprendre là, la nuance, pourquoi c'est important que je vous en parle. D'abord, la commission, si on revient au départ, c'est que dans la loi, ce que ça dit, c'est que la commission doit être composée d'un président, d'une vice-présidente et de minimum 5 commissaires ou juges administratifs. C'est exactement les effectifs actuels de la commission. Ensuite, elle a une mission, cette commission, c'est promouvoir l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels dans les secteurs publics et privés, en assurer la surveillance et décider des demandes de révision et d'examen de mise en entente qui lui sont présentées. Vous comprendrez qu'on ne regardera pas l'entièreté de la mission aujourd'hui, mais vraiment celle qui nous concerne, qui sont les autorisations de recherche. C'est une petite équipe de 59 employés avec un potentiel maximum de 62. Donc, on n'est vraiment pas beaucoup. Puis ça joue beaucoup sur la notion de délai. C'est pour ça que je vous parle de ces effectifs-là. On va en parler un petit peu plus quand on va décrire les unités. En fait, il y a 3 unités. Il y a la direction de la surveillance, qui est responsable de veiller au respect des droits et obligations prévus par les 2 lois. Il y a la direction, en fait, qui comprend le secrétariat général et les affaires juridiques, qui sont plus responsables du côté des litiges dans les demandes d'accès ou quand il y a eu des problèmes au niveau de communication de renseignements personnels sans que la personne ait consenti ou des choses comme ça, là, qui est plus le secteur juridique, qui sont responsables, dans le fond, des demandes de révision dans le secteur public et des demandes d'examen de mise en entente dans le secteur privé. Puis, une direction de l'administration qui, naturellement, s'occupe du côté important pour les employés d'avoir un chèque de paye. Une équipe composée de 10 à 14 personnes, c'est la direction de la surveillance, qui est ma direction. En fait, c'est le nombre d'employés potentiels là, dans les rapports annuels. Mais je peux vous dire que depuis 5 ans que je suis à la commission, on n'a jamais été plus que 8. Donc, ça fait vraiment une très petite équipe. On a un directeur ou une directrice, entre 9 et 11 professionnels, mais moi, je peux vous dire là, que dans les dernières années, c'était plus entre 7 et 8 professionnels, parfois même 6 professionnels, puis des employés de soutien au niveau secrétarial et agents de bureau. La principale fonction de la DS, en fait, c'est surveiller l'application des 2 lois et en faire la promotion, l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels. Si on regarde un petit peu plus, c'est quoi les fonctions de la DS? Mais en fait, on revient là avec le principe qu'on est maximum 8 à 10 personnes, c'est qu'on s'occupe des demandes d'information. Ça veut dire les gens qui appellent à la commission pour dire, ben moi, je voudrais peut-être faire une demande d'autorisation, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Fait que toutes les demandes d'information, dans le fond, qui sont distribuées parmi les analystes. Il y a certains analystes qui s'occupent exclusivement des plaintes, des enquêtes et des inspections. En fait, c'est trois fonctions de la direction. Je vous dirais que si on reçoit, par exemple, une plainte à la commission qu'il y a eu une personne qui dit on a pris mes renseignements personnels sans mon consentement, tout ça, bien, il va y avoir tout un processus qui peut se retrouver à la fois du côté de la direction de la surveillance ou des affaires juridictionnelles. Ça dépend toujours des circonstances, mais il y a quand même une analyse préliminaire qui est faite à ce niveau-là. Il y a toutes les demandes d'autorisation à des fins d'études, de recherche et de statistiques. En ce moment, il y a à peu près 4 personnes habilitées à faire l'étude de ces dossiers-là à la commission. Il faut comprendre que c'est toutes les demandes d'autorisation là, pour tous les chercheurs de toutes les universités, de tous les centres hospitaliers de la province. Ça fait quand même beaucoup. On a aussi une personne qui est surtout dédiée aux ententes de communication. C'est quoi une entente de communication? En fait, c'est... il y en a peut-être qui savent, mais il y a des organismes publics, par exemple, le meilleur exemple qui me vient toujours à l'esprit, c'est l'Institut national de santé publique du Québec, qui doit faire la surveillance continue de l'état de santé de la population, parce que c'est sa mission. Donc, pour faire cette mission-là, elle ne passe pas par une autorisation de recherche. Elle va passer par une entente de communication entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Régie de l'assurance maladie du Québec, pour avoir accès à des renseignements personnels, pour être capable de faire ses calculs, ses statistiques, le nombre de décès selon les maladies, tout ça. Les ententes de communication sont sur le site web de la commission. Tu sais, s'il y a des gens qui sont curieux, qui veulent voir comment ça fonctionne, vous allez les retrouver là, sur le site web. Il y a aussi des déclarations d'incidents. Quelqu'un qui appelle et qui dit ben, je viens de trouver 2 boîtes de dossiers de patients dans la rue. Là, c'est la clinique qui a fermé. Puis, les dossiers sont dans la rue. Fait que la commission part en enquête, mais c'est un exemple de fonction. Il y a aussi, la commission a la mission de la déclaration des banques de caractéristiques biométriques. Il y a une personne qui s'occupe exclusivement de recevoir ça. Qu'est-ce que c'est que la déclaration des caractéristiques biométriques? C'est, par exemple, un employeur qui déciderait de même matin que pour puncher, là, ça prend l'empreinte digitale. Ben en fait, il faut qu'ils fassent une déclaration à la commission. Il faut comprendre que les employés doivent consentir. Si l'employé dit oui, moi ça me va, mon empreinte digitale, il va pouvoir le faire, mais il peut aussi refuser. Puis l'employeur va devoir donner une méthode alternative à son empreinte digitale. Mais c'est toutes les banques de données biométriques sont déclarées à la commission. Ensuite, on a aussi une fonction de dresser le registre des agents de renseignement personnel, en fait. C'est toutes les personnes qui sont responsables dans leur institution de la protection des renseignements personnels ou de l'accès aux renseignements personnels. Puis aussi, on participe à des activités de promotion comme des colloques, comme aujourd'hui. Si on revient à vraiment notre objectif de la journée, c'est qu'est-ce qu'une demande d'autorisation? En fait, on va lire la loi comme telle, c'est la partie que j'aime le moins de lire des articles de loi, mais c'est pas grave, on n'a pas le choix. La commission peut, sur demande écrite, accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de recevoir à des fins d'études, de recherche ou de statistiques, communication de renseignements personnels contenus dans un fichier de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, si elle est d'avis que l'usage projeté n'est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme nominative. Les renseignements personnels seront utilisés d'une manière qui en assure le caractère confidentiel. Avant la suite, en fait, de cette... la loi dit aussi que cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions que fixe la commission. Elle peut être révoquée avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée si la commission a des raisons de croire que la personne ou l'organisme autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués ou ne respecte pas les autres conditions. Là, je reviens à la diapo d'avant parce que je veux quand même... Il y a 2 choses qui sont importantes. C'est la commission peut. Ça veut dire, c'est pas la commission doit. La commission peut. Puis elle peut si les conditions sont remplies. L'usage projeté n'est pas frivole, puis que les renseignements vont être conservés de manière confidentielle. c'est quand même les critères importants, puis c'est ces critères-là qu'on va regarder ensemble. Je donne la même, dans le fond, le même article de loi, puis c'est le seul, là, c'est le seul article de loi qui donne cette permission-là à la commission d'autoriser un chercheur à recevoir communication de renseignement personnel, parce que entre les deux lois, il y a eu une évolution quand même de la notion de renseignement personnel. Puis là, on débattra pas de ce point-là aujourd'hui, parce qu'on en aurait pour toute la journée probablement, mais en tout cas, c'est quand même de voir que la loi doit éventuellement s'ajuster à l'évolution de la science, mais la science évolue beaucoup plus rapidement que la loi aussi. Fait que si on reprend l'article 21, qui est l'équivalent de l'article 125, mais dans le secteur privé, ce que ça dit, c'est que la commission d'accès à l'information instituée par l'article 103 de la loi sur l'accès peut, sur demande écrite, accorder à une personne l'autorisation de recevoir à des fins d'études, de recherche ou de statistiques, communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées, si elle est d'avis que l'usage projeté n'est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme permettant d'identifier les personnes. On ne parle plus de notion nominative, mais une forme qui permet d'identifier les personnes. Ensuite, le reste, c'est la même chose. Les renseignements seront utilisés d'une manière qui en assure le caractère confidentiel et les mêmes conditions. Pourquoi je soulève cette attention-là, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas, par exemple, qui viennent chez nous, qui disent, ben oui, mais moi, je veux le code postal à 6 positions, je veux la date exacte de la personne, sa date de fête, je veux son sexe. À Montréal, il y a une étude qui a été publiée, puis il y a eu même un livre qui a été publié avec un sexe, une date de naissance complète, un code postal à 6 positions, on peut identifier 98 % des résidents de l'île de Montréal. Fait que si on a ces trois éléments-là, on est vraiment dans le confidentiel et dans le personnel, parce que c'est certain que si quelqu'un trouve notre base de données, il peut être capable de trouver n'importe qui à Montréal. Il y a des régions qui sont moins fragiles à ce code postal à 6 positions-là, mais il y en a d'autres qui le sont plus. Puis, juste pour compléter ça, parce qu'on avait fait une petite recherche à un moment donné avec une collègue à la Régie de l'assurance maladie du Québec, dans leur base de données, il y a plus de 900 codes postaux uniques. Donc, une seule maison. Ça aussi, ça a un impact là, sur la protection de la vie privée. Fait que des fois, on perd ces notions-là. On dit, ben oui, mais j'ai juste un code, puis tout le reste. Mais tout le reste, ça dépend. Là, c'est quoi tout le reste? C'est un petit peu ça. C'est une petite parenthèse sur renseignement personnel, mais j'ai dit qu'on n'en parlera pas trop. Bon. En fait, ce qui est important, c'est pas juste de présenter une demande d'autorisation à la commission, mais c'est de présenter une demande efficace. Puis là, c'est vraiment l'enjeu qui nous concerne le plus. C'est quoi une demande efficace? En fait, tu sais, il y a personne ici. Tu sais, quand on fait une demande à un grand fonds, par exemple, ça fait un peu bizarre de dire, ben, je vais aller vous dire comment faire une demande efficace, mais c'est important au niveau de la commission parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Fait qu'une demande efficace va avoir beaucoup plus de chances d'être étudiée rapidement qu'une demande qui n'est pas complète. En fait, c'est ça. Une demande efficace, c'est un dossier complet. C'est quoi un dossier complet? C'est de bien remplir le formulaire qui est disponible sur le site web de la CAI, avec toutes les informations qui sont demandées dans le formulaire et de le signer. Déjà, en partant, si le formulaire arrive et n'est pas signé, il va falloir retourner vers le chercheur, demander les signatures. Les raisons justifiant l'impossibilité d'obtenir le consentement. Si une demande qui arrive à la commission, puis on veut avoir 100 000 individus, c'est clair que c'est impossible d'avoir le consentement de 100 000 individus. On parle d'études populationnelles pour lesquelles c'est impossible d'obtenir le consentement. Mais si on vient à la commission, on dit on veut avoir 200 personnes, mais on veut pas le demander. Non, ça, c'est sûr que ça passera pas. Parce que si ça passe, il va falloir que vous ayez vraiment des bonnes raisons de pas être capable d'obtenir le consentement. Ensuite, la liste des renseignements personnels nécessaires et les organismes qui sont détenteurs des renseignements personnels. Ça a l'air simple, ça, on va en reparler dans une autre diapositive, mais c'est un élément très important. Ensuite, la copie du protocole de recherche, ça permet souvent aux analystes de compléter ce qui manque comme information. C'est quoi la population, tout ça, on va en reparler aussi. La lettre d'approbation du comité d'éthique, la frivolité dans la loi, pour nous, c'est clair que quelqu'un qui a un avis du comité d'éthique, qui a une subvention des grands fonds, c'est clair que l'objet n'est pas frivole, en tout cas. C'est des éléments, on n'a pas beaucoup d'éléments pour évaluer une demande, mais c'est des éléments importants pour nous. le formulaire de consentement du participant, parce que certaines études qui ont eu d'abord un consentement au départ, puis là, on revient à la commission pour avoir des renseignements, par exemple, à la Régie de l'assurance maladie du Québec, parce que les personnes sont décédées ou quoi que ce soit, mais on veut quand même voir qu'est-ce qu'il y avait dans le consentement, parce que la commission ne veut pas avoir à aller dans un territoire qui lui appartient pas légalement. Donc, on veut savoir que notre cadre, il est où. Puis aussi, tout autre document, comme une autorisation du DSP, parce que faut s'assurer qu'ils ont eu une autorisation du DSP pour aller dans les dossiers médicaux, là, avant de dire « oui, oui, on autorise », puis finalement, il n'y avait même pas eu à la base l'autorisation nécessaire. Bon, sur le formulaire de la commission, on demande des informations sur les chercheurs. C'est qui les chercheurs? Quelle université? C'est toujours dans le contexte un petit peu de savoir d'où viennent les personnes qui demandent accès. C'est qui les personnes à contacter aussi? Parce que on le sait que souvent, c'est l'agent de recherche qui va être notre personne avec qui on va communiquer plus que le chercheur. Donc, il faut être bien capable de savoir à qui on va parler puis qui va intervenir dans l'analyse du dossier. Puis le nom des co-chercheurs. Le nom des co-chercheurs, ça a l'air simple en soi, mais souvent, si on veut faire une analyse de risque par rapport à la protection des renseignements personnels, puis qu'on se rend compte que dans les co-chercheurs, il y a quelqu'un qui a eu accès à des renseignements à peu près dans le même contexte, la même chose, mais là, il faut être capable de faire cette analyse-là de risque, dans le même labo, s'il y a les mêmes renseignements, mais qui viennent de deux façons de faire, en tout cas, c'est quand même important. Puis les organismes détenteurs et les personnes ressources. Parce que souvent, on nous envoie, on dit, on veut avoir, par exemple, les renseignements de la RAMQ, fichiers des services médicaux, fichiers des services pharmaceutiques. On dit des choses comme ça, mais si on n'a pas marqué la personne ressource à qui on a communiqué, parce que nous, on s'attend à la commission que le chercheur va avoir fait les démarches auprès des organismes détenteurs pour savoir c'est qui va s'occuper de leur dossier. Parce que les organismes détenteurs, faut comprendre qu'eux aussi vont faire des analyses pour voir c'est quoi les renseignements. Ils vont travailler avec les chercheurs, mais des fois, les demandes arrivent puis il n'y a aucun lien qui a été fait avec les organismes détenteurs. Mais ça, c'est vraiment important parce que l'organisme détenteur, lui, il va faire sa propre analyse. Puis, si on n'a pas fait cette démarche-là, c'est clair qu'il va peut-être avoir un délai dans le processus juste à cause que eux vont peut-être prendre 3 mois pour étudier le dossier aussi. Puis, il faut comprendre aussi qu'à la Régie de l'assurance maladie du Québec, ils ont leur loi. Chaque organisme détenteur a sa loi aussi, des fois, qui vient encadrer la protection des renseignements personnels. Fait que même si la commission peut autoriser un chercheur à recevoir, la RAMQ, elle, a son mot à dire parce qu'elle a sa propre loi qui l'empêche de communiquer des renseignements personnels puis qui a son regard à elle sur les renseignements personnels. Bon, les types de demandes qui viennent à la commission, bien, c'est soit des nouvelles demandes ou des demandes de modification ou de prolongation. Une prolongation, c'est quand le chercheur il dit, ben moi, j'étais supposé de les détruire en 2015, mais là, je voudrais les conserver 2 ans de plus parce que j'ai pas fini de publier ou des choses comme ça. Fait que c'est important pour nous de savoir, là, on vient pourquoi. Puis souvent, la commission va essayer que ce soit le même analyste qui traite la demande de prolongation parce qu'il connaît déjà le dossier, puis ça facilite les délais aussi. Puis, dans le fond, sur le formulaire, on demande c'est quoi le titre de la recherche, c'est quoi les objectifs, puis les justifications quand c'est une modification ou une prolongation. Une modification, c'est souvent un chercheur qui dit, ben moi, je voudrais rajouter une nouvelle cohorte parce que là, je me rends compte que ça fonctionne pas mon étude parce qu'il manque tel type d'individu, puis là, je suis pas capable de faire mes analyses à cause de ça. Fait que ça, c'est un petit peu une modification, là. La population étudiée, mais c'est clair que la commission, d'une certaine façon, se substitue aux participants. C'est comme si la commission elle disait, oui, moi j'accepte là que le chercheur reçoive des renseignements pour 100 000 individus. Donc, on veut savoir, il y en a combien, tu sais, parce que des fois, les demandes arrivent, puis les populations sont mal définies, ont pas nécessairement été... On n'a pas déterminé, par exemple, le N qui serait statistiquement significatif. Fait que là, c'est plus simple, on dit on veut toutes les avoir. Non, parce que là, toutes les avoir, on n'est pas dans nécessairement... souvent, les critères qui vont être utilisés par la commission puis les organismes détenteurs, c'est la nécessité des renseignements qui sont demandés puis la proportionnalité aussi. Dans le sens que si on a besoin de 100 000 individus pour être statistiquement significatif, ben c'est clair que nous, on va préférer qu'il y ait 100 000 individus que 400 000. Fait que c'est un petit peu ça, cette proportionnalité-là, c'est de chercher à porter atteinte à le moins d'individus possible sans leur consentement. Aussi, c'est les formats des renseignements qui sont demandés. Souvent, les gens arrivent puis ils veulent tout avoir, puis ils disent la date de naissance complète, date de décès complète, code postal complet. Ben, est-ce que c'est possible de faire l'étude? Des fois, on n'a pas le choix, là. C'est pas possible de la faire, l'étude, si on ne l'a pas. Mais si on peut faire l'étude, si notre étude, c'est de faire des découpages par groupe d'âge, et je suis pas sûre que la date de naissance complète soit justifiée. Fait que c'est un petit peu ça, c'est d'essayer de toujours avoir l'esprit de porter le moins possible atteinte à la vie privée. Donc, si on peut réaliser notre étude juste avec l'âge ou avec l'année de naissance, mais on favorise de y aller avec ce qu'on a de besoin, dans le fond. Puis les apériments prévus, mais ça, c'est important un petit peu, comme je disais, dans l'analyse de risque. C'est que si on sait qu'on va avoir un jumelage qu'on veut faire quelque part, c'est important que la commission le sache, qu'elle ne l'apprenne pas par un intermédiaire ou quoi que ce soit. Puis, ben pourquoi les renseignements sont nécessaires, puis pour combien de temps, bien, c'est un peu ce qu'on disait tantôt. Les considérations éthiques, mais comme je disais, nous, c'est important de savoir est-ce qu'il y a eu une approbation éthique, est-ce qu'il y a eu un fonds qui a été accordé à la personne, est-ce qu'il y a des formulaires de consentement, est-ce qu'il y a eu des lettres d'invitation qui ont été envoyées, qu'est-ce que la lettre d'invitation disait. Puis c'est toujours dans le principe d'essayer de comprendre, là, il commence où le rôle de la commission, puis il finit où. Tu sais, c'est pas nécessairement pour dire contrôler ce qui se passe en dehors des murs de la commission, mais c'est d'être capable de dire ma juridiction, elle commence ici puis elle finit ici. Puis ça a l'air simple, mais des fois, il y a des dossiers qui nous arrivent, puis on se rend compte qu'il y a eu un consentement à l'hôpital, puis qu'il y a des choses là, qui relèvent pas de la commission, là. Donc, c'est important d'avoir ces informations-là. Puis aussi, mais il y a tout le contexte de l'émergence des biobanques et des banques de données qui sont un enjeu important. Là, j'ai dit qu'on ne parlerait pas de renseignements personnels aujourd'hui, mais c'est clair que ça pose tout un défi. Puis ce défi-là, je sais qu'on ne le réglera pas ce matin. On a plusieurs visions de c'est quoi une banque de données? Qui a le droit d'avoir accès à une banque de données? Qui devrait encadrer la banque de données? Qui devrait encadrer la biobanque? Je n'en ai pas de réponse ce matin. Honnêtement, la législation est là, mais elle est large, elle est vague. Elle ouvre la porte à toutes sortes d'interprétations. Puis, ben, on se pose plein de questions, puis on n'a pas encore toutes les réponses. Mais on n'en parlera pas ce matin. On fait juste effleurer. Les mesures de sécurité, ben enfin, on veut savoir, ils partent de où les renseignements, ils s'en vont vers quelle université, ils vont être entreposés comment à l'université ou à l'hôpital, sur quel serveur, est-ce que les serveurs sont protégés, est-ce que qui a accès aux serveurs, est-ce que les personnes qui ont accès ont signé des engagements à la confidentialité. En fait, c'est tout ce qui se passe autour de la sécurité d'un renseignement personnel. Ça a l'air simple en soi, mais on a vu toutes sortes de dossiers. On a vu des dossiers là, top, super bien structurés. On a vu d'autres, les consentements sont sur une tablette. Dans le labo n'est pas barré. Les données sont sur l'ordinateur portable du chercheur. C'est sûr que toutes ces choses-là, nous, on va être obligé de mettre des encadrements. La commission, c'est plus dans les conditions d'autorisation où elles vont imposer des choses. Parce que c'est clair que s'il y a un problème avec la sécurité, ça peut aller jusqu'au point où la commission va refuser. Donc, c'est important. C'est sûr que la plupart d'entre vous, tu sais, utilisez tout un petit peu le cadre du MES par rapport à la sécurité informatique, puis tout ça, fait que c'est de moins en moins présent, ces problèmes-là, mais il y en a encore quand même dans certaines situations là, où c'est problématique. Mais c'est quand même assez rare. Le rôle de l'analyste, ben en fait, c'est de prendre toutes ces informations-là, c'est de construire un rapport qui va décrire c'est qui le chercheur, c'est de quelle université qui vient, c'est qui les co-chercheurs. Toutes les questions qui ont été posées vont être mises dans le rapport, c'est ce que j'appelle la partie factuelle du rapport. L'université, le titre du projet, les objectifs, les chercheurs, les co-chercheurs, la population étudiée, les renseignements personnels demandés, la période prévue de la conservation des renseignements, les mesures de sécurité, les mesures, l'encadrement éthique et scientifique d'une certaine façon. Puis, ce rapport factuel-là, moi, personnellement, je l'envoie toujours à tous. À tous, ça veut dire les parties impliquées. Donc, le chercheur, par exemple, la Régie de l'assurance maladie, l'Institut de la statistique, peu importe c'est qui les organismes qui sont détenteurs, moi, je le partage. C'est ma façon de fonctionner. Ça, c'est très personnel. Je vous dis pas que toutes les analyses fonctionnent comme ça. Il y en a qui aiment mieux poser les questions par rapport à ce qui manque, puis ils l'envoient pas. C'est personnel. Moi, je trouve ça plus facile parce que je trouve que quand on envoie le rapport, d'abord, ça sert d'une certaine façon de... En tout cas, moi, je le vois comme une éducation en même temps. Les gens voient ce qui manque. Fait qu'ils font juste compléter. Ça devient un travail d'équipe. Puis, ensuite, quand le rapport factuel est finalisé, mais là, c'est toute la partie analyse où là, on discute dans le fond, des critères. Est-ce que l'objet, l'usage projeté est frivole, oui ou non? La plupart du temps, je vous dis sincèrement, moi, j'en ai pas vu des frivoles. J'ai une collègue qui en a eu un frivole, là, vraiment une affaire flyée, là, qui venait de quelqu'un de sa maison privée, mais en tout cas, j'en ai pas eu. Puis, les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme nominative ou sous une forme permettant d'identifier les personnes. Et parce que là, comme je disais, l'évolution de la loi est quand même importante parce que souvent, les gens disent « Ah, ben moi, j'ai pas le nom, prénom. » Ben, c'est plus que ça. Les renseignements personnels sont utilisés de manière à en assurer le caractère confidentiel. Fait que dans le fond, dans l'analyse, la partie où on a, moi je la partage, personne la partage parce que c'est une analyse qui est personnelle puis des fois est teintée des commentaires qu'on a eu des organismes, mais sincèrement, j'aurais pas de difficulté souvent à le partager, mais on n'est pas supposé. Fait qu'on le partage pas. Le consentement est-il possible? Je reviens sur le consentement parce que je trouve ça important. J'en ai parlé tantôt, quand on a 200 personnes, c'est clair que si on peut avoir le consentement, c'est ce qui est privilégié. Puis je voulais vraiment le partager avec vous, ce qui est sur le site de la commission, c'est que la communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée est une exception à la confidentialité des renseignements personnels. S'il est possible d'obtenir le consentement de la personne concernée, cette solution doit être privilégiée. Il n'y a pas beaucoup d'instances légales, en fait, qui peuvent autoriser la communication de renseignements personnels. Il y a la commission, c'est clair, mais il y a aussi, comme le bureau du coroner, il y a cette autorité-là aussi pour les dossiers du bureau du coroner. Il y a aussi la commission de la santé et sécurité au travail, qui a cette autorité-là. On n'a pas juridiction sur la CSST. C'est des exemples que je vous donne, mais c'est quand même un privilège. Puis il faut le voir comme un privilège quand on a accès à 500 000 les renseignements de santé de 500 000 personnes, c'est super que la loi nous ait donné cette chance-là, mais il ne faut jamais perdre que c'est quand même c'est un beau privilège là, qu'on a de pouvoir faire de la recherche sur ces données-là. Bon, c'est sûr que moi, c'est mon opinion à moi, que c'est un privilège. Il y en a qui disent, ben non, c'est la loi, puis c'est pas un privilège, mais en tout cas, ça dépend de avec quelle lunette qu'on le regarde. Moi, je considère que c'est un privilège. Sur le site de l'ACAI, on dit le consentement à la collecte, à la communication ou à l'utilisation des renseignements personnels doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. Ça, c'est en fait, on retrouve la définition du consentement dans la loi sur le privé. On n'a pas d'équivalence dans la loi sur le public. Mais par contre, pour la commission, la loi du privé s'applique aussi pour le public. Par contre, c'est sûr que là aussi, la définition du consentement dans les biobanques, dans les banques de données, ça devient plus complexe sur la façon dont on l'interprète. Puis on n'en parlera pas aujourd'hui non plus, parce que c'est clair qu'il y a plein de zones grises, puis il y a plein de visions de cette définition-là, mais... Je vous en parle parce qu'on a des enjeux quand même, puis il faut garder à l'esprit ces enjeux-là. On est en éthique, tout le monde. 5 minutes, OK. Le rôle de l'analyste, bien, en fait, c'est de prendre tout ce qu'il a reçu comme information, de rédiger son rapport, de s'assurer de la validité de l'information, de vérifier auprès des organismes détenteurs si la liste est correcte, déposer le rapport auprès de, dans le fond, de la directrice de la surveillance, Puis ensuite de ça, elle va le reviser puis le transmettre pour révision par les commissaires, puis soulever toute problématique potentielle quant à la protection des renseignements personnels. Qu'est-ce qu'une décision? En fait, c'est que le commissaire va lire l'entièreté des documents. C'est une décision qui est totalement indépendante, puis c'est très bien que ce soit comme ça. Si, par exemple, moi, je devenais trop proche de certains chercheurs, ça pourrait peut-être biaiser mon jugement. Je ne crois pas, mais, tu sais, on ne sait pas. Donc, le fait que ce soit un commissaire, une personne externe qui prend l'ensemble des documents, qui ne discute pas avec les personnes, qui est vraiment impartial, externe, mais ça ajoute un palier dans l'impartialité, à mon sens. Le commissaire, c'est sûr qu'il peut poser des questions à l'analyste, à la directrice. Il pourrait même convoquer les chercheurs dans une rencontre. C'est arrivé pas souvent, mais c'est arrivé à quelques reprises où le commissaire avait des questions, puis il voulait les poser directement aux chercheurs. Il faut se rappeler que ultimement, la commission pourrait autoriser un chercheur à recevoir communication de renseignement personnel et l'organisme détenteur pourrait refuser de les communiquer. C'est l'organisme détenteur qui a le dernier mot pour toutes sortes de considérations, soit sa loi, soit que des renseignements qu'il trouve trop sensibles, il pourrait dire, bon, OK, nous, on communique, mais ça, puis ça, puis ça, on le communique pas. Et ils ont ce droit-là, ça leur appartient. Pourquoi j'ai mis astérix? Je trouve ça vraiment important d'être capable de mettre cette diapositive-là. C'est comment peut-on s'améliorer? Mais en fait, un dossier complet, on l'a dit, ça facilite beaucoup. J'ai des dossiers sur lesquels, je vous le dis, je comptabilise mon temps sur chacun des dossiers. J'ai passé en haut, au-dessus de 100 heures. Pourquoi les listes de renseignements étaient mal dressées? J'ai mis astérix parce qu'il faut que je comprenne que certains dossiers, ça ressemble aux 12 travaux d'astérix. Ça ressemble vraiment à ça. J'ai dit, il faut que ce soit l'image là qui passe aujourd'hui les 12 travaux d'astérix. Parce que autant il y a des dossiers qui sont bien montés, que ça prend 12 heures, tout est fini, le rapport est déposé, c'est merveilleux. D'autres dossiers, c'est vraiment les 12 travaux d'astérix. Les renseignements sont pas là, les feuilles sont pas signées, là on retourne, les cohortes sont mal définies, on retourne, on pose, ben oui, mais les cohortes, ils viennent d'où? Ah, ils viennent de McGill, ils viennent de là, ils viennent de là. Là, finalement, tu dis, oh, OK, je vais appeler pour voir. Là, tu appelles, le chercheur dit, ouais, mais oui, ça vient de McGill, mais en fait, ils sont détenus par l'université, une autre université. OK, l'organisme d'attentat, donc c'est l'autre université. Ouais, d'une certaine... C'est vraiment compliqué, là, des fois, là. C'est vraiment... C'est les 12 travaux d'Astérix. Fait que... Faut savoir, les organismes détenteurs, c'est qui, ultimement? S'il arrive un accident, une perte de renseignements personnels, on se les fait voler, je sais pas. C'est qui, ultimement, qui est responsable? Est-ce que c'est l'Université McGill, l'Université de Montréal, l'Université Laval? Nous, c'est l'organisme détenteur qu'on veut avoir. C'est pas le chercheur, là, qui, finalement, il travaille là, mais il travaille aussi là, puis là. C'est vraiment, ça a l'air simple, mais je vous dis, dans certains dossiers, là, c'est vraiment un casse-tête. Transmettre tous les documents appropriés, transmettre les approbations éthiques, ça aussi. Approbation éthique, on a eu une approbation éthique. Faut que ce soit la même que celle pour laquelle on présente notre dossier à la commission, là. Parce que sinon, nous, on se fie sur la bonne, nous vraiment, on part avec l'idée que tout est top, tout est correct, puis qu'il n'y en a pas de problème, là. Mais, des fois, quand on fouille un peu pour tout ça, parce qu'on se dit, mais voyons, il me semble que le titre est pas pareil, puis on pose des questions, mais l'approbation éthique était pour une partie de la recherche, mais celle pour laquelle ils sont venus à la commission, c'est une autre affaire. Mais là, ça marche pas pour nous, là. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que c'est ça, les 12 travaux d'Astérix. Mais on peut trouver des solutions. En fait, c'est ça. Comme je dis, la façon dont les chercheurs peuvent nous aider, c'est de présenter des dossiers complets comme on dit, dans l'ordre des choses. La commission aussi fait des efforts pour s'améliorer, parce que c'est clair qu'on n'a pas beaucoup de ressources, puis faut trouver des solutions qui vont rentabiliser nous aussi nos ressources. Donc, ce que la commission a fait en 2012, c'est sur son site web, elle a déposé les exigences. Elle a amélioré son formulaire d'autorisation en 2013. Elle a standardisé un modèle de rapport d'analyse pour les analystes en 2013. Les commissaires ont standardisé un modèle de décision aussi pour les commissaires, pour que chacune des décisions qui sortent de la commission soit à peu près sur le même modèle. Puis, il y a un guide de rédaction pour les chercheurs, comment remplir le formulaire, tout ça, qui est en cours, qui Le draft est comme terminé, mais il reste la finalisation par la direction, puis après ça, toute la partie comme, là, si on peut dire. Puis, ben, c'est sûr qu'on est quand même dans un processus d'amélioration continue. En fonction de ce qu'on reçoit comme plainte ou comme commentaire, on essaie de s'améliorer, c'est clair. On est une petite équipe, comme vous avez vu, fait que on y va au fur et à mesure du mieux qu'on peut. Mais notre objectif, c'est de s'améliorer comme vous tous. La conclusion, en fait, c'est les enjeux des demandes efficaces. Bien, diminue les temps d'analyse, c'est certain. Augmente le nombre de dossiers étudiés par année. Parce qu'il faut comprendre que quand on travaille un dossier, après ça, il nous suit. C'est, faut continuer à faire le suivi de ces dossiers-là dans le temps. Fait que si j'ai 10 dossiers dans mon classeur, j'en ai 10 actifs, mais j'en ai aussi 40 là, qui sont actifs, pas parce que j'ai à les analyser, mais j'ai à faire des suivis sur les conditions, des suivis sur ci ou sur ça. Donc, c'est quand même. Améliore le partage des ressources humaines. Augmente le temps disponible pour les activités de formation, de promotion. Les activités de formation, promotion, pour moi, c'est une façon de travailler ensemble. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est que je me dis, s'il y a le plus de monde possible qui sache quoi faire, mais en quelque part, on va avancer plus vite ensemble. Puis, augmente le temps disponible pour le partage des connaissances. Bien, ça, c'est, ça va ensemble là, aussi. Alors, si vous avez des questions, merci.